Alors, ceci est le cinquième moment de la rencontre avec Erwin de Jasse autour de sa thèse sur la musique silencieuse de Minos Sempayo. Nous avons maintenant traversé l'ensemble des chapitres de sa thèse, depuis la description d'autres modes de lecture possibles que la lecture vectorielle dont on avait parlé dans la première capsule, jusqu'au travail de Minos Sempayo qui semble bien matérialiser les caractéristiques de cette bande dessinée qui peut nous toucher par une lecture émotionnelle, une lecture qui ne passe pas simplement par la trajectoire du récit, mais par un mélange subtil du dessin et de l'histoire qui se fusionnent. Alors cette thèse a été un long chemin démarré sur une intuition et comme on le sait, une thèse c'est toujours le risque de découvrir en cours de route une impasse ou de découvrir que le point de départ n'était pas le bon point de départ. Est-ce que d'entrée de jeu tu t'étais engagé dans ce chemin par la lecture de Sempayo et de Munoz depuis un souvenir d'enfance ou quelles étaient les autres intuitions qui ont présidé ?
Oui, mais enfance, plutôt adolescence, et encore à l'adolescence, je ne l'ai pas vraiment lu. C'est-à-dire, moi, j'ai souvenir de cette bande dessinée bizarre. Le souvenir le plus fort, c'est la couverture de Flic ou Privé, où j'avais vraiment l'impression, j'ai souvenir vague de ça, d'avoir l'impression d'un truc qui m'avait l'air mal dessiné exprès, je ne comprenais pas très bien, quoi. Donc, c'est un petit peu cette question-là qui a toujours taraudé et qui a un peu, je pense, qui a guidé des intuitions futures aussi. Je pense qu'il n'y a rien de plus jubilatoire que d'être confronté à une œuvre et se dire, mais qu'est-ce qu'il veut faire, quoi ? Et creuser, etc. Et donc être dans cette espèce de situation d'inconfort. Et puis il y a tout ce travail de domestication de l'esthétique, qui je trouve, moi, est un des trucs les plus excitants que je trouve dans la bande dessinée. On pourra répondre que finalement, c'est vrai pour n'importe quelle expression visuelle, sauf que ce que je dis aussi dans la thèse, c'est que la bande dessinée, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Thierry Smolderen, c'est un art proliférant. Donc les dessins sont multiples, sont nombreux, et donc on a comme ça une avalanche de stimuli. Munoz et Sempayo est vite arrivé comme une évidence. Il y a eu l'expo que j'avais monté à Charleroi en 2013, qui s'appelait Munoz Breccia, l'Argentine en noir et blanc. J'avais aussi l'occasion de rencontrer Munoz, où le courant était très bien passé aussi. Finalement, il y a chez lui presque une confusion entre la rencontre de l'œuvre et la rencontre humaine. Ça me semblait évident aussi parce que c'est une œuvre qui résiste, donc il y avait plein de choses à découvrir. Je voyais la thèse non pas comme une espèce de chemin balisé où je savais où j'allais aller, mais qui était plutôt de plonger dans l'œuvre et me confronter à ce qui allait se passer, un petit peu comme sur un flipper, d'être balancé une fois à gauche, une fois à droite, relancé en avant, etc. Et toujours essayer de, je dis pas de maîtriser cette matière-là, mais essayer d'un petit peu essayer de trouver un chemin là-dedans, même si, quand j'y pense aujourd'hui, il reste encore toujours des zones d'ombre que j'ai pas explorées et qui continuent à me poser questions. J'ai du mal à partir d'une espèce de grosse question théorique et puis à partir de là construire un raisonnement. En amont de ça, c'est pas ce qu'on indique dans un dossier de subvention, mais il y a souvent d'abord des intuitions, quoi. Et je trouve que les intuitions, et notamment les intuitions de l'enfance, voire de l'adolescence, sont souvent des guides assez intéressants. Je remarque ça, même si ce que j'ai découvert à l'enfance ou à l'adolescence, on connaît moins de choses, mais j'ai l'impression qu'il y a une perception assez fine de certaines choses, d'évolution esthétique, de transformation du style, de rupture, etc. Enfin, je ne l'ai jamais verbalisé comme ça quand j'étais gosse, mais il y a pas mal de textes que j'ai écrits qui sont un peu partis là-dessus. Et c'était un petit peu aussi l'objet de ce très court texte qui introduit la thèse et un autre un peu miroir qui l'a conclu, qui était effectivement que quand j'ai vu ça pour la première fois, je devais avoir 14-15 ans. À l'époque, on trouvait tout le catalogue Casterman, y compris dans les supermarchés. Je me souviens que je voyais Munoz et Sempayo au Cora à Rocourt. Je regardais un petit peu, ça m'avait l'air bizarre, et en même temps c'était là, et je pense que ouais, c'était quelque chose d'important aussi, parce que c'est peut-être des œuvres que j'ai pas lues à ce moment-là, mais qui faisaient partie, en quelque sorte, du paysage, et je suis un peu perpétuellement dithyrambique par rapport à cette œuvre-là, mais ce qu'il y a aussi, c'est que forcément on lit, on relit, donc il y a toujours des surprises, ou voilà.
Une part impressionnante de ta thèse est autour de la bande dessinée argentine, que par exemple moi je connaissais très très peu, et tu la replaces très très bien dans son ancrage historique, politique et sociétal. D'ailleurs, la thèse t'a amené en Argentine. Est-ce que c'est là que tu as découvert en fait l'étendue de cette histoire ?
Je pense que oui. Enfin, vraiment parvenir à cerner ce qu'était cette histoire-là, oui. C'est là que j'ai complété le paysage, quoi. J'étais déjà allé à Buenos Aires une première fois en 2010, donc je connaissais un petit peu des choses, j'avais rencontré des chercheurs sur place, j'avais lu quelques bouquins. Donc c'est le séjour de 2012 où là, effectivement, j'ai vraiment eu l'occasion de comprendre ce que c'était, surtout j'avais le temps de me plonger dans toute une série de revues, quoi. Parce que finalement, la thèse ne parle qu'une d'une toute petite partie de ça, hein, mais il y a eu cette production surabondante. À un moment donné, c'était de comprendre que ça venait de là.
Est-ce qu'il y a en Argentine des gens qui s'occupent de l'histoire de la bande dessinée en Argentine, ou est-ce qu'il y a là aussi un manque
Oui, il y a pas mal de gens intéressants qui écrivent sur la bande dessinée. Ça a même été un petit peu précurseur, parce qu'il y a une manifestation qui était assez importante, qui était la Biennale des Historietas, donc la Biennale de bande dessinée, qui a eu lieu, si mes souvenirs sont bons, en 69. Et qui présentait une très grosse expo qui, en fait, s'inspirait largement d'une autre expo plus célèbre qui était Bande dessinée et figuration narrative, qui avait eu lieu en 67 au Musée des Arts Décoratifs de Paris et qui est souvent présentée un petit peu comme une forme d'exercice inaugural, comme le début de l'histoire de la bande dessinée au musée, même si il y a sans doute eu des choses avant, mais là, ça a été assez important aussi. Il y a eu, des précurseurs de la recherche, notamment quelqu'un comme Oscar Massotta, qui était un psychanalyste. Il faisait d'abord des recherches en sciences humaines. Il s'est intéressé en gros à l'image, et puis il a bifurqué vers la psychanalyse. Et c'est lui qui a apparemment introduit la psychanalyse lacanienne en Argentine. Et quand on sait que c'est le pays le plus psychanalysé au monde, on voit que ce personnage est assez fondamental. Mais il y a eu tout un bouillonnement autour de Massotta. Il y a une très belle revue qui s'appelle L&D, Literatura dibujada, donc littérature dessinée, qui a eu son importance là. Et je pense qu'il y a des connexions qui mériteraient davantage d'être faites aussi. Je pense qu'il y a un enjeu qu'on commence à découvrir aujourd'hui, c'est l'histoire de la bande dessinée, ou l'histoire des recherches autour de la bande dessinée. Le territoire français, on connaît assez bien. Il y a une thèse sur le sujet qui s'écrit en ce moment. Mais je pense que ce qui serait intéressant aussi, après coup, c'est de commencer un petit peu à connecter ces histoires-là. Enfin, parce qu'on va se rendre compte, évidemment, que tout ça fonctionne comme des réseaux. Et sinon, sur place, bah oui, il y a des jeunes chercheurs. Enfin, moi, j'ai côtoyé notamment Pablo Tournes et surtout Laura Vázquez, qui a écrit un livre qui m'a énormément servi, qui s'appelle El Oficio de la Historieta, donc l'atelier de la bande dessinée, qui décrit justement tout le fonctionnement industriel de cette bande dessinée argentine et puis ses mutations finales et comment on passe en gros d'une grosse industrie très, très normalisée, avec des moments de rupture et des moments d'écroulement économique, et comment là-dedans émergent des figures radicales comme Muñoz, comme Breccia ou Carlos Niné, par exemple. Je suis sorti des études universitaires en ne pensant pas faire carrière là-dedans. J'avais vraiment pas du tout l'impression que c'était fait pour moi. Par contre, j'ai commencé assez vite à écrire sur la bande dessinée. Où là, j'étais pas nécessairement dans un cadre universitaire, donc j'écrivais un article, puis j'ai fait un peu de travail journalistique, etc. Donc j'expliquais ce que je voyais, ce que je ressentais, et puis au fur et à mesure, parfois on tombe sur un texte théorique qui amène quelques repères qui peuvent être intéressants, sur lesquels on peut commencer à réfléchir. Dans tout ce travail-là, il y a eu un plaisir de l'écriture qui a commencé à arriver, quoi. Quand j'ai écrit une ou deux phrases, aller lire, aller relire, relire un paragraphe pour voir si ça sonne bien, quoi. Mais je pense que si ça sonne bien, c'est peut-être, enfin, en général, me semble-t-il, parce que ce qui doit être expliqué, souvent, il y a en tout cas la volonté de l'expliquer justement, et donc avec l'idée que les bons termes, le bon rythme, voire la bonne ponctuation, est quelque chose qui va apporter le juste regard sur le travail. Un peu à mon corps défendant, on présente parfois un petit peu comme quelqu'un d'un petit peu hétérodoxe dans le domaine, et c'est vrai que, enfin voilà, si c'est plaquer des théories sur des objets, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Par contre, utiliser les théories dans une boîte à outils et en laissant passer ce que moi je ressens, ça devient intéressant. Je parlais des émotions enfantines tout à l'heure. C'est un petit peu cette recherche-là. Comme s'il y avait quelque chose qui était passé et que j'essayais d'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et donc ça passe à la fois pas par une écriture abstraite, parce qu'il s'agit de dire des choses, mais de trouver dans la forme de l'écriture quelque chose qui colle avec... Enfin, je sais pas comment dire, quoi. Enfin, quelque chose qui puisse incarner, en fait, un propos. Enfin, j'entendais une interview de Gérard Genette, un narratologue éminent, il parlait de ça, et pour lui, considérait qu'il n'y avait pas de différence entre une œuvre littéraire et une œuvre théorique. Bon, je sais pas si j'ai écrit une œuvre littéraire, faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas, passer par le plaisir de l'écriture, ça, oui. En tout cas, plaisir pour moi, s'il passe auprès du lecteur, c'est bien aussi. Enfin, c'est un peu le but, mais ces deux choses que je ne sépare pas, c'est un peu comme le dessin et le scénario, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une espèce de substrat théorique froid qu'on peut extraire des choses, mais c'est de toute façon quelque chose qui doit être réexpliqué à chaque fois à travers un discours qui va l'incarner. Donc la théorie, elle s'incarne dans l'écriture. On pourrait s'incarner dans du film aussi, hein. On peut faire de la théorie filmique ou de la théorie en bande dessinée, ça c'est sûr. Moi, je vois des choses qui peuvent être prometteuses, qui notamment qu'on développe des doctorats dans les écoles d'art maintenant. Donc on va amener vers les doctorats des gens qui ont une autre approche, des gens qui sont des praticiens de la chose. Donc ça va peut-être ouvrir des fenêtres, quoi. Moi, je l'espère, enfin, c'est quelque chose que j'attends un peu avec enthousiasme, parce que je pense que ça peut peut-être faire du bien aussi à des recherches en histoire de l'art qui sont peut-être parfois un petit peu cadenassées par les outils théoriques.
Alors la thèse a été défendue en 2015 et j'imagine que toute cette matière produite va donner lieu à une transformation, écriture d'articles, publication remaniée vers le grand public ou quelque chose de cet ordre.
Bah oui, la première chose sur laquelle je travaille, c'est la réécriture de cette thèse pour sa publication. Il n'y a rien de signé, mais il y a un éditeur avec qui il y a des contacts fructueux qui ont été pris. Et d'autre part, Casterman m'a demandé d'écrire les introductions pour toutes les rééditions en fait, du cycle américain de Muñoz de Sampaio, donc le Barrajo et Alaxineur. Et puis, ils ont visiblement été assez enthousiastes aussi à l'idée de publier pour la première fois Placinto 56, donc, qui était le pré-Alaxineur en quelque sorte. Et à mon avis, qui va être intéressant parce que ça va permettre évidemment de remettre en perspective Alaxineur par rapport à cette création aussi qui non seulement n'a jamais été publiée en français et qui n'a même jamais été publiée sous forme de volume, uniquement publiée sous forme de revue. Dans l'avenir immédiat, il y a quelques articles sur le feu, dont un article sur Dominique Goblet pour 9e art, la revue du musée de la bande dessinée d'Angoulême, où je vais réfléchir aux collaborations dans son travail, donc voir comment elle travaille avec d'autres artistes, parce qu'elle a souvent des collaborateurs qui sont un petit peu atypiques. Entre autres choses, il y a un projet qui sur lequel je travaille depuis 10 ans en collaboration avec Dominique Théat, qui est donc un artiste qui vient de l'AS Grand Atelier, qui est un centre d'art pour personnes porteuses d'un handicap mental. Et voilà, elle a travaillé avec sa fille aussi, par exemple, dès le plus jeune âge jusqu'à l'adolescence. Et donc voir comment toutes les collaborations qu'elle met en œuvre ont une influence sur son travail, comment son travail se réinvente en fait au contact d'un apport exogène. Sinon, les plus gros chantiers, j'aimerais beaucoup travailler sur les relations entre la bande dessinée et l'art brut. Disons qu'il y a une idée qui traverse tout ça, notamment c'est l'idée de la persistance du narratif, du fait que l'art contemporain, on va dire labellisé, ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, a rejeté très fortement le narratif. Il est peut-être en train de le redécouvrir, j'en suis persuadé. Mais l'art brut est, à mon avis, une sorte de refuge du narratif, de la même manière que la bande dessinée l'est aussi. Et dans quelle mesure aussi la bande dessinée alternative n'a pas vu dans l'art brut une sorte de laboratoire de possibles qui vient comme ça, en quelque sorte, recoller à une quête de nouveaux possibles pour la bande dessinée. Et alors il y a un projet encore à plus long terme même si ça fait déjà 7-8 ans que je suis dessus, mais qui devrait s'appeler, en tout cas c'est le titre de travail, une histoire des formes de la bande dessinée, qui consiste en fait à essayer de repérer quelles sont les formes canoniques, quelles sont les formes qui à un moment donné sont ressenties comme une norme et comment elles se déconstruisent. Comment, par exemple, la bande dessinée, je ne sais pas, prenons la bande dessinée qu'on appelle classique, enfin celle du journal Spirou et Tintin, par exemple, comment dans les années 60, elle entre en concurrence avec d'autres formes d'expression, avec l'arrivée de revues comme Métal Hurlant, L'Écho des Savanes ou Charlie Mensuel, par exemple. Donc c'est de voir aussi comment, quels sont les facteurs qui amènent ça, voir aussi un petit peu les replacer dans l'époque, voir pourquoi, par exemple, tout le bouillonnement contre-culturel, sans doute une quête vers davantage d'individualité qui est présente dans ces mouvements contestataires, mais 68, etc. Comment ça s'incarne dans la bande dessinée, comment est-ce qu'elle la transforme, comment est-ce que le mouvement punk, par exemple, a une influence, à mon avis, tout à fait déterminante sur la bande dessinée. Donc c'est un petit peu, essayer de voir comment les formes évoluent, comment elles se transforment. Mais moi je l'ai déjà dit 10 fois, c'est vraiment, tu sais faire avec ça, ouais.
Ok, on est curieux de voir ça arriver. Merci Erwin, merci pour ce travail et merci pour ces interviews que tu nous as données.
Merci à toi Stéphane.